dans Éphésiens chapitre 1er verset 7, en lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce. En Jésus, nous avons le pardon de nos péchés. Troisième texte dans Éphésiens, toujours au chapitre 3 et verset 12, en lui, en Jésus, nous avons par la foi la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Et je ne sais pas ce matin si vous êtes venu dans ce lieu simplement pour lire la parole ou si vous êtes venu dans cette réalité que nous venons de lire, de nous approcher de Dieu avec confiance, parce que si c'est le cas, alors le Seigneur, il est dit que si on s'approche de lui, lui, il s'approche de nous. Et c'est vraiment dans cette dimension que nous voulons aller. Nous croyons que le Seigneur veut s'approcher de nous ce matin. En voyant dans la parole toutes sortes de personnes qui disaient avoir beaucoup. Nous voyons dans la parole toutes sortes de personnes qui disaient posséder tellement de choses et qui finalement, quand on regarde la réalité de ce qu'ils avaient, c'était pas le cas. On voit dans la parole des personnes qui veulent avoir certaines choses, mais c'est pas ce qu'elles ont besoin. Et on voit dans ces versets ce que nous avons en Christ. On voit ce que nous pouvons posséder en Christ. Et ce matin, je voudrais prendre l'exemple de Pierre, c'est simplement des textes d'introduction. Je voudrais qu'on puisse prendre l'exemple de Pierre dans Luc, déjà au chapitre 5. Cet homme qui avait tellement à apprendre du Seigneur, cet homme qui a été utilisé comme un moyen de bénédiction, qui a été utilisé puissamment, qui, vous vous rendez compte, il suffisait qu'il passe dans la rue à un moment donné, et son ombre, les malades qui étaient sous son ombre étaient guéris. Ça, c'est ce qu'il vivait. Et c'est quand même quelque chose de particulier. Je crois que n'importe quel chrétien aimerait vivre ce genre de choses. Cet homme a été utilisé puissamment, mais quand on voit ce qu'il était au début, on se dit qu'il a fait du chemin. On se dit qu'il a fait des progrès. Et on se dit qu'il a dû réaliser certaines choses. Alors Luc chapitre 5 verset 1, « Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth, et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac deux barques d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit et de la barque il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, « Avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jetterai le filet. » L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les deux barques au point qu'elles enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et il dit, « Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. » Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'il avait faite. Il en était de même de Jacques, de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, « Ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. » Et ayant ramené les barques à terre, ils laissèrent tout et le suivirent. Amen. Vous avez vu cet homme ? Une des premières rencontres, c'est pas la toute première, mais une des premières rencontres qu'il fait avec Jésus. Voilà ce qui se passait dans sa vie. Il a vécu un miracle. Mais quand on regarde à ce qu'il avait l'habitude de penser, ben c'était un pêcheur aguerri. On sait qu'à l'époque, c'était un des travaux les plus courants. Et cet homme était aguerri à ce genre de choses, aguerri à aller à prendre la barque, aguerri à chercher les recoins dans le lac de Génézareth pour trouver s'il y avait des bancs de poissons. Il connaissait tout cela par cœur, il savait la navigation, il avait la connaissance, il avait l'expérience, il avait en plus des associés avec lui, il n'était pas tout seul dans le travail, il y avait toute une équipe qui était là. Et ils faisaient leur travail, ils arrivaient à gagner leur pain pour leur famille. Mais à un moment donné, tous ces efforts, tout ce déploiement d'efforts, ça a résulté en tout cas par quoi ? Par l'échec. Par rien. Ce matin, je voudrais insister sur ce mot « rien ». Regardez ce qu'il dit. Le constat, il est simple. Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Et il y a des fois dans nos vies où nous vivons des situations où nous nous retrouvons à faire un constat de la même façon. Nous avons beau avoir un beau travail, nous avons beau avoir un cerveau bien rempli, nous avons beau avoir une position sociale, nous avons beau avoir peut-être de l'argent, nous avons beau avoir toutes sortes de choses, tous les efforts que nous faisons, ça amène à rien. Et on voit, on a des exemples autour de nous, des personnes qui ont réussi socialement, Et quand ils regardent, par exemple, leur famille, ben, c'est la destruction. Il y a les divorces. Il y a les enfants qui sont fâchés avec les parents pour une histoire d'argent. Quand on voit les personnes les plus riches de France, des fois, on n'a pas envie d'avoir autant de richesses, finalement, parce que ça amène plus de problèmes que ça amène de joie. Et on a beau dépenser toute une vie à essayer de s'en sortir, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas travailler. Attention, c'est pas ça que je dis. Mais c'est pas parce qu'on travaille dur que forcément on va être heureux. C'est ça que je veux dire. Cet homme, il travaillait dur. Ils ont travaillé dur toute une nuit. Et vous avez vu ce qu'ils faisaient? Sur le matin, ils étaient encore au bord de la mer en train de laver les filets. Tout ce qu'ils avaient fait, ça avait servi à rien si ce n'est à salir les filets. Et ils étaient là en train de laver soigneusement. Au lieu d'aller se reposer, de dormir et de dire, bon, mais si c'est comme ça, je laisse tomber. Et on a besoin, dans ces moments, de venir au pied du Seigneur. Et c'est ce que Pierre, il a fait. Pierre, il avait cette connaissance, cette expérience de pêcheur. Mais il a dû réaliser vraiment qu'il n'avait que de la fatigue. Il a dû réaliser vraiment qu'il n'avait que de la lassitude. Imaginez faire quelque chose et refaire quelque chose et passer des heures à faire quelque chose et finalement le résultat, ça ne sert à rien. Ça amène au fait qu'on est lassé. Et on a envie de baisser les bras. La seule chose qu'il avait, c'était une marque vide. Vous avez remarqué? Mais regardez ce qu'il en a fait de cette barque vide. Regardez ce que Jésus en a fait surtout. Jésus était là, il y avait une grande foule qui commençait à se rendre compte que cet homme qui parlait là, Jésus, il avait quelque chose de particulier quand il parlait. Il ne parlait pas avec son intelligence, mais il parlait avec l'Esprit de Dieu qui lui communiquait quelque chose. Et ces personnes étaient là, et donc il y a eu une foule qui s'est rassemblée. Jésus, il s'est dit, pour pouvoir parler de manière encore plus efficace, je vais prendre la barque et je vais aller au bord de l'eau et ça va retentir. Vous savez, l'eau fait retentir le son. Et Jésus a employé la barque de Pierre qui était vide. Il l'a employée comme une estrade pour prêcher la parole. Et combien c'est intéressant de réaliser que quand on se retrouve à ce constat que dans notre vie, il y a quelque chose qui est vide, la meilleure chose que nous pouvons faire, c'est de dire, Seigneur, prends-le. Utilise-le pour ta gloire. C'est ce que Pierre, il a fait. Je pense que Jésus devait observer Pierre depuis un moment, de le voir en train de laver son filet, de voir que le bateau était vide. Et je crois qu'il a voulu lui donner une leçon puisqu'il savait ce qu'il allait être, cet homme. Jésus, il savait. Vous savez, quand il nous regarde, le Seigneur, il ne voit pas seulement notre passé, il voit aussi notre futur. Et je crois qu'il a voulu donner une leçon à cet homme. Je crois qu'il a voulu lui montrer que ce que c'était que de pécher des hommes. D'apporter une parole qui va pouvoir amener les hommes, non pas à être prisonniers, mais à les amener dans le royaume de Dieu. La pêche que le Seigneur veut pour ses enfants. Et le premier qui a pu en bénéficier, vous savez qui c'est, de l'enseignement du Seigneur? C'était Pierre. Qui c'est qui était aux premières loges? Qui c'est qui avait conduit la barque pour amener le Seigneur? C'était Pierre. Et il était là, il entendait Jésus parler. Et je crois que il a laissé son cœur être travaillé par cette parole. Et quand on n'a rien, quand on se sent inutile, il est bon de revenir aux pieds du Seigneur et de se laisser enseigner par sa parole. Et la barque qui était vide, c'est devenu un moyen que l'évangile soit proclamé, mais c'est aussi devenu un moyen de miracle. Et qu'est-ce qui a changé par rapport à la nuit? Quelle est la différence entre le moment où il y a eu zéro, pas de poisson dans la barque, il y a eu rien? Et le moment où il y a eu la bénédiction. Qu'est-ce qui a changé? Alors, c'est très simple. La présence de Jésus. Ce qui a fait la différence dans cette histoire, qui a amené la bénédiction, qui a amené l'abondance, la pêche miraculeuse, c'est la présence de Jésus. Jésus est présent dans la barque et il donne une parole. Il dit, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Et je crois que s'il peut y avoir un miracle aujourd'hui, ce matin en particulier, c'est pas parce que moi je vais vous dire une parole, parce que ça sert à rien. Mais ce qui peut amener un miracle, c'est qu'il y ait la présence de Jésus dans votre vie. Ce qui peut amener un miracle, c'est que c'est une parole du Seigneur. Alors bien sûr, moi je vais essayer de parler pour que ce soit une parole du Seigneur qui soit transmise. Là, ça va pouvoir amener un miracle, mais ce ne sera pas mes mots et mon intelligence à moi qui pourra vous communiquer quoi que ce soit. Parce que comme Pierre, je peux dire, je n'ai rien. Je n'ai rien. Mais je veux que dans ma barque, il y ait le Seigneur Jésus. Avance en pleine eau, ça veut dire ouvre grand ton cœur. Ce matin, le Seigneur, il regarde de quelle façon nous sommes en train d'écouter ce passage. Le Seigneur, il regarde de quelle manière nous sommes en train d'entendre la parole. Est-ce que nous avons le cœur grand ouvert en disant, Seigneur, oui, j'ai soif que tu puisses me parler, j'ai soif de vivre du miraculeux dans ma vie. On entend dans les louanges et dans les prières que le Seigneur, encore aujourd'hui, il est capable de guérir. Et combien c'est merveilleux de connaître la parole de Dieu, de connaître que Jésus est celui qui guérit. Combien c'est merveilleux de lire les témoignages du boiteux et de telle personne qui est guérie par le Seigneur. Mais c'est encore plus merveilleux de le vivre personnellement. C'est encore plus merveilleux d'expérimenter de façon personnelle que Dieu est celui qui, encore aujourd'hui, il entend la prière du malheureux. Et quelle grâce! Et on pourrait monter les uns après les autres et dire toutes les fois où le Seigneur est intervenu, quelle grâce ça a été pour nous, parce que ça a solidifié notre foi. Bien sûr, on ne veut pas vivre que des expériences, on ne veut pas suivre le Seigneur seulement parce qu'il nous bénit, parce qu'on veut marcher dans ses voies, on veut lui obéir tout simplement. Mais combien ça fait du bien quand le Seigneur il exauce nos prières et il manifeste sa puissance. Jésus a donné une parole, mais c'est pas parce que Jésus seulement a donné une parole que le miracle est arrivé. Jésus a donné une parole et Pierre a obéi. L'obéissance est tellement importante. Sur ta parole, je jetterai le filet. Et Pierre a été à ce constat de lui-même, il a dit, on n'a rien pris, on a travaillé toute la nuit et ça a servi à rien. Mais il y a une différence, sur ta parole. Je jetterai le filet. Seigneur, avec tout ce que j'ai entendu dans ton message, je crois qu'il y a quelque chose que tu peux m'amener. Je crois que ça vaut le coup de tenter. Je crois que c'est une bonne chose d'essayer parce que tu viens de la part de Dieu. Et vous voyez de quelle manière cet homme y réagit. Il y a la pêche miraculeuse, il avance en pleine eau, il lance le filet, et alors qu'ils ont pêché toute la nuit ou presque au même endroit, ben là, les poissons, ils sautent tout seuls dans le filet. C'était merveilleux, même limite il sautait directement dans le bateau, parce que c'était le miracle du Seigneur, parce qu'il a obéi à la parole. Et des fois on s'acharne, on peut passer une vie entière à essayer de s'approcher de Dieu, mais de le faire avec nos propres forces, et vous savez quoi? Ça sert à rien. Travailler pour rien, totalement inutile. Mais il suffit d'une parole du Seigneur qui est communiquée à notre cœur, il suffit que nous mettions notre foi. Vous savez que la foi c'est pas seulement de dire « je suis d'accord ». La foi, c'est une action. Pour Pierre, la foi, c'était de retourner pécher. Pour Pierre, à ce moment-là, la foi, c'était de retourner pécher, d'accepter de le faire malgré la fatigue. Et parce qu'il l'a fait, il y a eu le miracle. Et le résultat, c'est que la barque s'est aussi transformée en un lieu de repentance, un lieu de pardon, un lieu de lumière pour Pierre. Pierre, il se rend compte de son péché, il se rend compte quand il voit le miracle, quand il voit Jésus, l'ordre, toute la façon dont ça s'est enchaîné. Il se rend compte qu'il est pécheur. Et il se rend compte aussi en face de qui il est. Il est en face de, pas seulement d'un homme, mais il est en face du Fils de Dieu. Il est en face d'un homme qui n'a jamais péché. Il est en face d'un homme qui n'a jamais dit un mot de travers. Et du coup, il dit, mais je suis un homme pécheur. Retire-toi de moi. Je ne mérite pas d'être dans ta présence. Et si on fait bien le constat par nous-mêmes, avec beaucoup de sincérité ce matin, je crois que tous on peut dire la même chose. Personne ici ne peut dire, moi je mérite d'être dans la présence de Dieu. Parce qu'on est tous pécheurs. Et que le Saint-Esprit puisse nous montrer avec force qu'il n'y a rien en nous qui est bon par nous-mêmes. Mais par la grâce de Dieu, il nous accepte dans sa présence. Parce que Jésus, il n'est pas venu seulement pour montrer à Pierre qu'il était pécheur, mais il est venu parce qu'il avait des projets de paix et d'avenir. Vous connaissez ce passage? J'ai formé pour toi des projets de paix et de bonheur afin de te donner un avenir et une espérance. Voilà le désir du Seigneur. Et vous remarquerez que Jésus, il lui dit rien, il lui dit pas « repens-toi », il lui dit pas « maintenant il faut que tu confesses ton péché, maintenant il faut que tu dises tout le mal que tu as fait ». Vous avez remarqué ça? Parce que c'est pas la façon de faire du Seigneur. Le miraculeux a convaincu, l'Esprit de Dieu a convaincu Pierre qu'il était pécheur, et même cet homme fait une prière qui, heureusement, n'a pas été exaucée, « retire-toi de moi ». Et au contraire, le Seigneur, il aime s'approcher du pécheur qui se repent. Et Jésus, à ce moment-là, il amène encore plus loin. Tu seras maintenant pécheur d'homme. Oui, tu es fort, tu sais de quelle manière t'y prendre, tu sais quel appât il faut en fonction de tel poisson, tu sais à quel moment il faut y aller. Et moi, je veux t'amener à une dimension supérieure, que tu sois un pêcheur d'hommes, quelqu'un qui va communiquer à ces personnes qui sont perdues, qui va les amener dans le royaume de la lumière. Et Jésus lui donne cette parole de paix, ne crains point. Combien dans le monde dans lequel on est aujourd'hui, on a besoin d'avoir ce genre de parole. Ne crains point, mais des fois, pour ne pas craindre, il faut savoir écouter le Seigneur qui nous dit, désormais, tu seras pêcheur d'hommes. Désormais, tu seras à mon service. Et on voit que ça n'a pas traîné, puisqu'ils sont revenus à terre. Et même les deux marques qui étaient en train d'enfoncer, ils ont tout laissé pour le suivre, le Seigneur. Est-ce que nous voulons suivre le Seigneur? Ça, c'est la réponse que nous devons chacun pour notre part dire au Seigneur, dans notre cœur, bien sûr. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour nous, le Seigneur a des projets de paix. Même si nous n'avons rien, même si nous ne possédons rien, ou même si nous avons beaucoup, mais que cela ne sert à rien, le Seigneur a des projets de paix pour nous. Simplement venons tels que nous sommes dans sa présence. On va aller dans Jean chapitre 21. Jean chapitre 21, verset 2. Simon-Pierre, Thomas, appelé Didyme, Nathanaël de Cana en Galilée, les fils de Zébédée et deux autres des disciples de Jésus étaient ensemble. Simon-Pierre leur dit, « Je vais pêcher. » Ils lui dirent, « Nous allons aussi avec toi. » Ils sortirent et montèrent dans une barque, et cette nuit-là, ils ne prirent rien. Le matin étant venu, Jésus se trouva sur le rivage. Mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Jésus leur dit, « Enfants, n'avez-vous rien à manger ?» Ils lui répondirent, « Non. » Il leur dit, « Jetez le filet du côté droit de la barque, et vous trouverez. » Ils le jetèrent donc et ils ne pouvaient plus le retirer à cause de la grande quantité de poissons. Amen. Vous connaissez le texte, on ne va pas le lire en entier. Mais vous remarquerez la similitude qu'il y a entre le premier texte qu'on a lu et celui-là. Mais il y a des choses qui se ressemblent quand même, mais il y a aussi des choses qui sont différentes. Qu'est-ce qui a changé depuis la dernière fois ? Ce qui a changé, c'est que Pierre venait de voir Jésus ressuscité. Il avait vu son maître être crucifié, mais il avait vu aussi à deux reprises être ressuscité. Et pourtant, il est retourné à son travail de pêcheur, comme si de rien n'était. Qu'est-ce qui avait changé? Mais Jésus avait fait de Pierre un apôtre. Il avait envoyé avec les 12, même avec les 70, pour qu'il puisse aller dans les villes et prêcher la bonne nouvelle. Et là, qu'est-ce qu'il faisait, Pierre? Il retournait à ce qu'il avait l'habitude de faire avant que le Seigneur Jésus l'appelle. Et on peut avoir connu la bénédiction il y a des années en arrière, et puis retourner à ce que l'on a connu auparavant. Et puis arriver à ce constat que finalement, on a fait tout ça pour rien. On a tourné en rond. Et quel malheur de rester dans cette position-là. Mais on voit que Jésus, lui, il avait un autre programme pour Pierre. Et il y avait la même fatigue qui était là. Qu'est-ce que Pierre, il avait vraiment? Il avait toujours la fatigue. Une nuit à pêcher et rien qui se passe. Il avait toujours la même lassitude. Ils ne prennent rien du tout. Et la différence qu'il avait dans cette histoire, la différence qui est la plus importante, c'est que Jésus, il se trouvait sur le bord et Pierre, il était dans la barque, comme toujours. Mais Jésus était sur le bord. La première fois, Jésus était dans la barque. Et l'image, elle est forte, parce que souvent, on se trouve en train de faire des choses. Est-ce que pécher, c'est mal? Bon, alors, ça dépend lequel péché, hein, on est d'accord. Pécher le poisson, est-ce que c'est mal? Pêcher le poisson, c'est pas mal, ça permet justement d'avoir la nourriture. Mais à ce moment-là, est-ce que pécher, c'était mal? Oui, dans un sens, puisque ce n'était pas la volonté de Dieu. Dieu l'avait appelé à être pêcheur d'hommes et lui, il voulait être pêcheur de poissons. Il était revenu à cette dimension-là. Et le résultat, c'est que l'image, elle est forte. Jésus, il se trouve sur le bord pendant que lui, il fait tous ses efforts. Et je pense que toute la nuit, ils ont bataillé, ils ont cherché un endroit. Ils ont lancé les filets, ils ramènent les filets, ils se sont fait blesser les mains et tout ce que vous voulez. Et puis, tout ça pour rien, encore une fois. Et ça me fait penser à toutes ces personnes qui font toutes sortes de choses et qui le font sans le Seigneur. On peut faire de merveilleuses choses sur la terre. On peut même faire du bien à notre prochain. On peut faire tellement d'actes de bienfaisance. Mais ce qui est important, c'est pourquoi on le fait. Vous savez, je me souviens combien j'ai été interpellé par ce que je voyais à la télévision. Enfin, on voyait qu'une partie, mais c'est surtout les retours que j'en ai eus. Quand il y a à Draguignan, il y a eu des inondations importantes dans le Var et que la ville a été submergée, il y a des personnes qui sont décédées, etc. Et vous savez ce qui s'est passé? Les associations caritatives ont voulu toutes répondre aux besoins. Est-ce que c'est bien? Ben oui. Sauf que ce qu'on ne savait pas forcément, c'est qu'ils se disputaient pour pouvoir être ceux qui allaient passer à la télévision. Et alors, ils voulaient apporter le bien, mais ils voulaient aussi l'image, ils voulaient la réputation. Et des fois, on peut faire de très bonnes choses. Je ne remets pas en question toutes les associations, parce qu'au contraire, on a beaucoup à apprendre de cela. Mais quand on le fait dans un mauvais état d'esprit, je crois que ça gâche tout. Et on a besoin que le Seigneur soit dans notre barque. Pierre, il était là en train de batailler. On peut même faire des choses. Je parle pas seulement caritative, mais on peut même faire des choses pour le Seigneur. On peut même prêcher. On peut même chanter des cantiques. On peut même prier. Et le faire alors que le Seigneur Jésus est sur le bord. Et des fois, on est en train de se dépenser dans des activités. Pierre, il est en train de revenir à ce qu'il avait l'habitude. Oh, mais il avait une certaine confiance en lui quand il pêchait. Il savait que c'était des choses qu'il maîtrisait. Mais Jésus, il était sur le bord. Et on a besoin, dans ces moments-là, de reconnaître que l'on n'a rien sans le Seigneur. Et des fois, c'est une part nous-mêmes qu'on le réalise, mais des fois, c'est le Seigneur Jésus qui nous pose la question. Vous avez vu cette question? Enfant, n'avez-vous rien? Et je crois que ce matin, c'est la question que le Seigneur est en train de nous poser. Mes enfants, est-ce que vous avez rien? Et c'est pas forcément mauvais que de dire non, j'ai rien. Parce que c'est ce qu'ils ont répondu, ils ont été obligés de dire, bah oui, le constat, il est là, on n'a rien. Tout ça a servi à rien. Mais voilà, ce qui a tout changé, c'est qu'ils ont accepté, encore une fois, d'obéir. C'était quoi le but du Seigneur dans ce moment-là? Le but, c'était pas de leur donner à manger. Vous connaissez l'histoire. Vous savez que Jésus, il avait déjà préparé le feu, il a déjà préparé le poisson et le pain. Tout ça, c'était prêt sur la plage. Et pourtant, Jésus a choisi de se servir de l'activité qu'il faisait, mais il a voulu leur donner une leçon. Il a voulu leur donner la leçon que peu importe l'activité que l'on fait, s'il y a une parole de Dieu, alors il y a la multiplication. Et alors qu'ils étaient en train de pêcher, que ça a donné rien du tout, Jésus donnait une parole, jetait le filet de l'autre côté. Une seule parole qui vient de la part du Seigneur, ça a changé leur dimension. La barque était pleine de 153 grands poissons. Mais pourtant, ils ont mangé le repas que le Seigneur avait préparé. Parce que c'était seulement cette leçon-là. Est-ce que ce matin, frères et sœurs, vous voulez recevoir une parole du Seigneur? Non seulement ce matin d'ailleurs, mais tous les jours de votre vie, vous avez cette faim particulière d'avoir cette nourriture qui vient de la part de Dieu. Seigneur, oui, je n'ai rien à manger, mais Seigneur, je sais qu'en toi, je peux trouver tout ce dont j'ai besoin pour manger, pour prendre des forces. Et parce que ces personnes ont obéi, encore une fois, le miracle est arrivé. Et la question qu'il faut se poser pour chacun d'entre nous, dans chacune des circonstances que nous vivons, est-ce que le Seigneur Jésus est à bord de notre barque? Où est le Seigneur Jésus? Est-ce qu'il est sur le bord? Ah, il nous regarde faire, il nous regarde nous agiter, il nous regarde en train de faire toutes sortes de choses, de dépenser nos forces, et il nous regarde en train de nous épuiser. Ou alors est-ce qu'il est avec nous et que c'est lui qui nous conduit? On tourne quelques pages dans Actes chapitre 3. On voit que cet homme. Je ne raconte pas l'histoire où Jésus est venu vers lui, il lui a demandé à trois reprises, est-ce que tu m'aimes? Pierre a été restauré totalement de la part de Dieu et le Seigneur lui a confié même les personnes de son église, paie mes agneaux, paie mes brebis. Voilà le commandement du Seigneur envers Pierre. Et puis Pierre a choisi du coup de persévérer, a choisi de prier, a choisi de passer du temps dans la communion fraternelle. Le Saint-Esprit est tombé et dans Actes chapitre 3, on voit un Pierre qui est totalement différent. On voit un Pierre qui est rempli du Saint-Esprit. Et on voit que finalement, ce Pierre, il a retenu comme il faut la leçon. Pierre et Jean montaient ensemble au temple, à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple, appelé la Belle, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, regarde-nous. Il le regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles demeurent fermes. D'un saut, il fut debout, il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Amen. Vous voyez la différence avec Pierre. Pierre qui est là, qui nous donne cet exemple. Pierre et Jean qui montent à l'heure de la prière, qui avaient ce désir déjà de passer ce temps avec le Seigneur. Et on voit un homme qui est présent et un homme qui est un petit peu dans l'attitude de Pierre auparavant. Il croit avoir plein de choses, cet homme. Il croit déjà avoir des amis. Il y avait des personnes qui venaient le prendre et l'amener au bord des marches tous les jours. C'est bien quand même de pouvoir compter sur des personnes comme ça, qui venaient le transporter. Mais est-ce que c'est ce qu'il avait besoin? Ben oui, dans un sens, puisque c'est là où il pouvait faire l'aumône. Mais ce dont il avait le plus besoin, est-ce que c'était pas d'être guéri tout simplement? Vous savez, des fois on veut certaines choses, je le disais au tout début. Et puis, c'est ce qu'on veut, c'est différent de ce qu'on a besoin. Le Seigneur qui nous connaît, il nous donne ce dont on a besoin. Il ne nous donne pas forcément ce qu'on veut, parce qu'il sait ce dont on a besoin et parce qu'il est puissant pour nous le donner. Ça n'empêche pas que des fois, parce qu'on a la crainte de Dieu, le Seigneur, il exauce même des désirs. Vous savez, des fois où j'ai même pas fait une prière, j'ai dit, tiens, ça serait bien que ça arrive. Et le Seigneur a pourvu. Mais on veut quand même être de ceux qui choisissent de pas regarder à des choses comme ça. Cet homme, il regardait à ses amis, peut-être il était satisfait, il regardait au fait qu'il était au temple, que par sa position, il pouvait demander l'aumône. Il n'avait pas besoin de travailler. Mais qu'est-ce qu'il avait vraiment? Il avait un handicap qui le pénalisait. Il était peut-être frustré de ne pas pouvoir rentrer dans le temple. Il entendait sûrement la musique, les beaux cantiques qui résonnaient. Il entendait peut-être des bouts de la parole, mais il n'entendait pas bien. Et il avait une frustration, parce qu'il ne pouvait pas rentrer à cause de son handicap. Et il avait une résignation face à la maladie. Je ne sais pas comment vous êtes face au problème que vous rencontrez. Il peut arriver même des fois que même les docteurs vous disent qu'il n'y a plus d'espoir. Et moi, je respecte beaucoup le corps médical. Mais je crois aussi que Dieu est le Tout-Puissant, le divin médecin. Et quand les hommes ne sont plus capables d'intervenir, je crois que Dieu, lui, il est encore capable d'intervenir. Et c'est dans ces moments-là que c'est encore mieux de s'approcher du Seigneur. Parce qu'il n'y a que lui qui peut faire quelque chose. Cet homme était résigné. Vous savez combien de temps ça faisait qu'il était malade? Ça faisait plus de 40 ans. C'est pas précisé exactement, mais plus de 40 ans qu'il était boiteux. Ça commence à faire 40 ans. Et tous les jours, la même rengaine. Tous les jours, à la porte du temple, tous les jours, les gens sûrement le connaissaient par cœur, puisqu'ils le voyaient tous les jours. Ils lui donnaient l'aumône tous les jours. Mais voilà ce qui a fait la différence, c'est ce qu'il a eu en Christ. Et ce qui fait la différence pour chacun de nous, c'est ce que nous avons en Christ. Qu'est-ce que nous avons en Christ? Nous avons lu que nous avons le pardon, nous avons la paix, nous avons la possibilité de nous approcher. Cet homme, il a rencontré Pierre qui était maintenant en train de faire son travail de pêcheur d'hommes. Il était en train de faire son travail, de porter cette bonne nouvelle aux hommes. Et vous savez ce qu'il a dit, Pierre? Personne ne l'a poussé à le dire. Je crois que si quelqu'un l'a poussé, c'est le Saint-Esprit. L'a poussé à dire cette parole. Regardez bien ce qu'il dit. Je n'ai ni argent, ni or. C'est un peu comme s'il disait, je n'ai rien. Je n'ai rien à te donner. Mais ce que j'ai, la seule chose que j'ai, la seule chose véritable que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus de Nazareth, lève-toi et marche. Et ce matin, je voudrais prendre cette parole de Pierre pour l'appliquer à ma propre vie. Ce matin, je n'ai rien à vous apporter. Si on parle de mon expérience, je n'ai rien. Si on parle de mes cheveux blancs, si j'en ai un petit peu. Mais ce n'est pas traduction de sagesse. Je n'ai pas beaucoup de sagesse à vous donner. Je n'ai pas de grandes expériences à vous raconter ce matin. J'ai une seule chose à vous donner. La chose essentielle. Le nom de Jésus-Christ qui est puissant pour accomplir des miracles. Ça, c'est ce que je veux vous donner ce matin. Et la même manière que Pierre a dit cette parole, je n'ai ni argent ni or, ce que j'ai, je vous le donne. Moi non plus, j'ai pas. Vous voulez voir mes comptes financiers? Je n'ai pas ni argent ni or. Hein. Mais j'ai le plus grand de tous les trésors. Le plus grand de tous les trésors, c'est le Seigneur Jésus qui a donné sa vie à la croix. Et le Seigneur Jésus qui est capable, quand on met notre foi dans ce sacrifice, de nous apporter la guérison. Quelle que soit la gravité de la situation, le Seigneur Jésus est capable d'intervenir. Oui, est-ce qu'il y a des déchirures dans la famille? Le Seigneur Jésus est puissant pour intervenir. Est-ce qu'il y a des situations conflictuelles, le Seigneur est puissant pour apporter un flot de pardon. Est-ce qu'il y a une maladie, le Seigneur est puissant pour bénir parce qu'il a donné sa vie. Voilà la seule chose que j'ai. Et je voudrais terminer ce moment en réfléchissant à cette réalité. Nous allons prendre la Sainte-Seine tout à l'heure, mais d'abord on va prendre un chant. On va fermer les yeux et réfléchir à cette réalité que Jésus, c'est l'homme aussi qui n'avait rien. La Bible dit qu'il n'avait rien pour nous plaire. Il ne frappait pas le regard. Quand on regardait à Jésus, on ne se rendait pas compte de qui c'était, mais c'est quand on entendait sa parole et quand on voyait de quelle façon il agissait. Cet homme qui n'avait rien pour plaire, il a mené une faveur divine. Ce matin, qui va avoir le courage de dire « je n'ai rien » ? Ce matin, qui va avoir le courage de dire « j'ai travaillé pendant longtemps, pendant des années peut-être, sans rien prendre, sans trouver la joie, sans trouver le bonheur ?» Hérode, Pilate plutôt, qui parlait de Jésus, il a dit « cet homme, il n'a rien fait qui soit digne de mort. » Le brigand qui était sur la croix à côté du Seigneur, il a dit « celui-ci n'a rien fait de mal. Pour nous, c'est justice. Mais celui-ci, il n'a rien. Il n'a rien fait de mal. C'est pas normal qu'il se trouve là. » Et puis il a compris que si Jésus se trouvait là, c'était pour la bénédiction. « Seigneur, souviens-toi de moi quand tu seras entré dans ton règne. » Jésus était celui qui n'avait rien pour plaire. Mais au travers de sa vie, il nous a donné tout ce dont nous avions besoin. Dieu, qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas toutes choses avec lui ? Jésus nous a donné sa vie. Et peu importe le besoin que nous avons ce matin, réalisons que par nous-mêmes, nous n'avons rien, mais que Jésus peut nous donner tout. Parce qu'il est le Tout-Puissant. La foi qui amène la bénédiction et la multiplication, c'est la foi dans la parole du Christ. C'est la foi dans le sacrifice de la croix, c'est la foi dans la résurrection. Cet homme Pierre qui était tout tremblant au début et qui disait « Seigneur, retire-toi de moi », il est devenu un porte-parole. Parce qu'il avait vécu la réalité. Que quand on obéit à la parole de Christ, alors les choses changent. Les choses sont différentes. Seigneur, je te demande dans ces instants d'ouvrir nos yeux, Seigneur, de nous permettre de réaliser que nous n'avons rien par nous-mêmes. Merci pour toutes les grâces que nous avons quand même, Seigneur. Merci pour tout ce que nous pouvons posséder. Mais nous croyons que tout cela est vain si nous n'avons pas ta présence dans notre vie. Nous croyons que nous pouvons posséder tout le monde, mais que notre âme, nous pouvons la perdre. Aussi, nous voulons que, Seigneur, que tu sois présent dans notre barque. Voulons, Seigneur, ne pas nous dépenser dans une activité, Seigneur, que tu ne nous demanderais pas de faire, mais que par ton esprit, tu puisses nous conduire dans la direction divine. Seigneur, tu vois ce matin la personne qui a besoin de ton intervention, peut-être parce que les hommes lui ont dit que c'était fini, qu'elle n'avait plus d'espoir. Oh Seigneur, toi tu es celui qui a des paroles d'espérance. Tu nous dis encore ce matin, ne crains point. Ne crains point. Et nous voulons, Seigneur, saisir ta paix, saisir ta grâce. Et nous voulons, Seigneur, que tu puisses prendre la place dans notre cœur. Et nous voulons, Seigneur, dire oui, nous n'avons rien, je n'ai ni argent ni or. Mais ce que j'ai, je te le donne. Aide-nous à être ces témoins autour de nous qui vont amener la bénédiction. Aide-nous à être de ceux qui communiquent une grâce à ceux qui les entendent, simplement parce que nous t'avons rencontré réellement. Merci Éternel de prendre soin de chacun et de chacune. Amen.